Bonjour à tous, poursuivons aujourd'hui notre exploration de l'économie de la nuit.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Ils et elles sont policiers, infirmières, livreurs ou femmes de ménage et leur journée commence lorsque la ville s'endort. En France, 3,6 millions de personnes travaillent au moins 2 heures par mois au beau milieu de la nuit, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Au mois d'octobre, le gouvernement a même suggéré de ne plus considérer comme du travail nocturne que les heures après minuit. La proposition a provoqué une levée de boucliers. Alors pourquoi le travail de nuit est-il davantage protégé, au risque selon certains de nuire à l'activité économique? C'est notre question du jour. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons suivre les pas des travailleurs de nuit en compagnie de Béatrice Barthes, maîtresse de conférence à l'Université de Toulouse et présidente de la Société d'ergonomie de langue française, en compagnie également de Marc Loriol, sociologue, chercheur au CNRS et spécialiste de la souffrance au travail dans la fonction publique. À 14h50, Xavier Martinet sera parmi nous avec sous le bras son journal de l'écho.
Au micro, Bernard Marsay. Il est 2h. Nous allons vous présenter une route de nuit tout à fait inhabituelle. En effet, les 7 nuits de la semaine, ou si vous préférez, les 7 animateurs de la route de nuit, vont venir vous dire bonsoir à vous tous, travailleurs, à vous tous qui écoutez la radio la nuit. C'est une route de nuit pour vous, une route de nuit tout à fait exceptionnelle.
Bonne nuit, Michel. Oh, excusez-moi tout d'abord de vous déranger à une heure pareille. Déranger un prix Goncourt à 3h du matin? Ben oui, le 3h.
Non, vous ne me dérangez pas, ou plus exactement, ça me dérange, mais ça me fait plaisir, parce que comme je suis très paresseux, dès que je commence à travailler, je me dis, pourvu que quelqu'un vienne me déranger, ça me délivrera.
Mais Michel, je m'aperçois que les écrivains, eux aussi, font partie du monde de la nuit.
Ah oui, d'ailleurs, vous savez, Cocteau a dit, écrire, c'est faire passer au jour la petite nuit secrète que l'on a en soi. Alors comme la nuit a peur du jour, eh bien la nuit, ça se passe mieux. Alors l'écriture, n'est-ce pas, passe dans le bras, vient en encre noire sur la page blanche, et l'opération est évidemment plus facile la nuit, elle a moins peur. Alors j'écoute la radio, et puis j'écris, et puis j'écoute à nouveau la radio, et puis j'écris. C'est comme ça que je passe la plupart de mes nuits.
Béatrice Barthes et Marc Loriol, bonjour.
Bonjour.
On vient d'entendre une archive de Route de nuit, l'émission des travailleurs de la nuit sur France Inter. C'était en 1971. Alors les écrivains aussi font partie du monde de la nuit, comme Michel Tournier, aux côtés des militaires, des aides-soignantes, des boulangers, des chauffeurs de poids lourds et de toute une série de métiers pour lesquels le travail commence, Marc Loriol, lorsqu'il s'arrête pour les autres.
Effectivement, le monde de la nuit, c'est aussi un monde qui est en partie à part parce que, d'une part, dans les grosses institutions, les grosses entreprises, la plupart des salariés ne sont plus présents et donc on a affaire, même dans les hôpitaux qui travaillent 24 heures sur 24, même dans la police qui aussi assure 24 heures sur 24 les services de métiers sur lesquels j'ai travaillé, il y a une ambiance spécifique, il y a aussi une coupure vis-à-vis de la hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a des médecins de garde, il y a des commissaires de permanence, mais on hésite à les appeler, donc on est beaucoup plus autonome. On doit être beaucoup plus autonome. Et cette autonomie, elle est recherchée, mais elle peut parfois aussi devenir pesante. Mmh.
C'est un autre monde qui commence la nuit, lorsque les travailleurs arrivent sur le lieu de travail, Béatrice Barthes.
Oui, tout à fait, comme a dit Monsieur Marc Loriol. C'est un autre monde, les conditions de travail sont différentes, le travail à faire est différent. Les services supports sont souvent fermés. Vous l'avez dit, la hiérarchie est souvent peu présente. Du coup, ça peut peser en termes de responsabilité, mais c'est aussi une grande autonomie. Ça permet également d'apprendre, de se construire, de souder les collectifs.
On va voir qu'effectivement, il y a un certain nombre d'avantages qu'on peut trouver dans le travail de nuit, mais aussi beaucoup d'inconvénients et de conséquences, notamment sur la santé, sur la vie sociale. On va en parler. Mais d'abord, il faut peut-être expliquer que l'histoire du travail de nuit, Marc Loriol, c'est aussi l'histoire de sa régulation par le droit. À partir de quand est-ce que le travail nocturne a-t-il été encadré ?
Alors, le travail de nuit a été encadré d'abord pour les femmes, comme le temps de travail d'ailleurs. En 1892, on interdit, sauf dans certains secteurs très particuliers, le travail de nuit des femmes. D'une part pour des raisons de santé, mais indissociablement liées à des questions de rôle social qu'on accorde aux femmes à l'époque et de moralité. C'est-à-dire qu'on estime que, pareil que pour le temps de travail, le corps féminin ne doit pas être épuisé trop tôt parce que c'est le corps reproducteur, celui qui assure les enfants pour la nation, que la femme soit celle qui éduque les enfants, également pour des raisons de moralité. On disait la nuit, un monde à part, c'est un monde qui a souvent aussi un peu mauvaise presse. Donc on a peur que la nuit se passe des choses pas entièrement morales, et donc il faut protéger les femmes de ce monde qui pourrait ouvrir à des tentations ou des dangers particuliers.
Béatrice Barthes. Pour compléter par rapport à cette loi, en effet, qui interdit le travail des femmes, il y a aussi la concurrence potentielle qu'elle constitue vis-à-vis des hommes.
C'est un aspect,
également l'objectif de l'interdiction du travail de nuit des femmes à ce moment-là.
Et à partir de quand est-ce qu'il y a, non pas des interdictions, mais l'idée de protéger davantage les travailleurs avec un système de compensation lorsqu'ils travaillent la nuit, Marc Loriol?
Alors, l'idée de compenser existe dans le droit du travail depuis longtemps, même si la définition du travail de nuit dans le droit du travail est assez restrictive, puisqu'elle suppose effectivement d'avoir une longue durée avec des plages qui sont comprises entre minuit et 6h ou 5h du matin. Donc, ça existe. Depuis la préoccupation, ça a toujours, comme je dis, comme pour le temps de travail, ça a commencé par les femmes. Après, effectivement, il y a un système de compensation avec des rémunérations plus importantes, avec un certain nombre de droits supplémentaires, par exemple pour le retour au domicile en dehors des heures de fonctionnement des transports en commun.
Souvent, c'est une majoration de salaire de l'ordre de 30% et aussi des points pénibilité pour la retraite, par exemple.
Alors, le compte de prévention de la pénibilité, donc, qui a été mis en place sous François Hollande, prévoyait un maximum de 2 ans de départ à la retraite par rapport à l'âge où on peut avoir une retraite à taux plein pour ceux qui cumulent un certain nombre de critères. Effectivement, parmi ces critères, il y a le travail de nuit. Mais un travail de nuit qui suppose au moins 120 nuits par an, avec à chaque fois une emprise sur cette période minuit 5h du matin. Ce qui fait qu'il peut y avoir des personnes qui ont travaillé en soirée ou travaillent très tôt, ou qui sont en alternance, qui peuvent échapper en partie à cet avantage et pas obtenir ces 2 ans, alors que le travail de nuit est très pesant à long terme.
Mais ce que la loi prévoit, c'est qu'il faut justifier le fait de recourir à des travailleurs de nuit, Béatrice Barthes. Je cite la loi, il faut justifier par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Comment est-ce qu'il faut interpréter cette phrase, Marc Loriol?
Alors, je dirais que c'est une négociation, un rapport de force dans la mesure. Si on prend l'exemple que vous avez évoqué tout à l'heure de l'ouverture des commerces, la justification est complexe. Les syndicats la contestent. Ils estiment par exemple que après 21 heures, les commerces font à peine 2% de leur chiffre d'affaires. Donc,
Alors, il faut peut-être Il faut peut-être expliquer cette proposition du gouvernement, alors qui a finalement été abandonnée pour le moment, qui était de permettre de faire en sorte que les salariés ne soient pas en horaire de nuit de 21h à minuit, afin que les supermarchés puissent ouvrir pendant cette période, alors que le fait de devoir les payer davantage rendait cela compliqué pour eux.
Alors absolument, et ça a été une tentative à 2 reprises en 2018 et 2019, mais le gouvernement a décidé de reporter, pas d'annuler son projet, de dire qu'il devait y avoir de la concertation sociale, mais pense revenir à la charge, mais aussi une tentative de contournement. C'est-à-dire que on a des zones dites touristiques internationales qui autorisent justement ce travail en soirée. Et on a étendu ces zones touristiques internationales. Par exemple, tout Paris est devenu zone touristique internationale. Je ne sais pas si à Toulouse, il y a aussi eu des extensions de ce type, mais tout Paris
oui,
est une zone touristique internationale.
Béatrice Barthes.
Oui, peut-être pour répondre à votre question autour de la réglementation du travail de nuit. Aujourd'hui, en France, le travail de nuit, c'est celui compris entre au plus tôt 21h et au plus tard 7h du matin, ou sur une autre période négociée et définie par convention collective ou par accord de branche ou d'entreprise. C'est ça qui est important, avec la plage horaire en effet de minuit à 5h qui est obligatoirement considérée comme du travail de nuit.
Mais il y a beaucoup de dérogations
voilà.
Selon les secteurs.
Alors non seulement, comme vous dites, il y a des dérogations, par exemple pour les activités de production rédactionnelle industrielle de presse, de radio, de télévision, etc. Mais surtout, ce sont en fait les branches professionnelles et aujourd'hui plus les entreprises, qui définissent eux-mêmes leur temps de travail de nuit par le biais de la négociation, la négociation collective. Et donc ainsi, on arrive à une diversité extrêmement grande entre les secteurs, entre les entreprises, entre les salariés qui travaillent par exemple toute la nuit, mais l'heure de travail entre 23h et minuit peut être comptée dans une entreprise comme horaire de nuit, avec droit à compensation, etc., et dans une entreprise comme travail de jour.
Et vous diriez que la tendance actuelle aujourd'hui est à l'assouplissement, alors certains diront à la dérégulation de ce travail de nuit, Béatrice Barthe.
Tout à fait.
Ça a peut-être commencé avec la loi El Khomri en 2016.
Tout à fait, on arrive à, par rapport à l'historique, vous posez la question sur l'historique des temps de travail et de la législation sur le temps de travail, on a pendant très longtemps, le temps de travail a cherché, la législation a cherché à protéger la santé des travailleurs, des travailleuses, et aujourd'hui en fait la question du temps de travail, et notamment du travail de nuit, est là aussi pour faire face aux fluctuations de l'activité économique. Donc on n'est pas dans le même registre, et cette possibilité qu'ont les entreprises au niveau local de définir eux-mêmes leurs horaires fait que l'on assiste aujourd'hui à une variabilité, une myriade d'horaires de nuit extrêmement diverses. Je pense à Monsieur Marc Loriot, vous devez connaître peut-être Ian Stumps, un sociologue qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Vers la fin du temps de travail.
Et qu'est-ce qu'il veut dire ? Parce qu'on peut parler de cette diversité de situations, mais on peut aussi parler effectivement de cette tendance à l'assouplissement. C'est souvent le mot que l'on utilise de ce travail de nuit. Mais alors, est-ce que vous parleriez de la même évolution, Marc Lauriol, et surtout comment ça s'inscrit dans un paysage européen ?
Alors, tout à fait. Là, pour compléter ce que disait Béatrice Barthe, c'est vrai qu'il y a une désynchronisation des temps de travail qui touche le travail de nuit, qui touche aussi le travail diurne, parce que les personnes qui sont dans une entreprise sont parfois amenées à ne plus avoir les mêmes horaires de travail. Donc ça pose un problème en termes de constitution de collectif de travail ou même d'action syndicale. Quand les gens embauchent et débauchent à des heures différentes, c'est tout bêtement, c'est plus difficile de distribuer des tracts, de faire des réunions. Quand ils ne mangent pas aux mêmes heures, c'est aussi plus difficile d'échanger sur le travail de façon informelle. Donc cette désynchronisation, elle a tendance d'une part à avoir des conséquences sur la vie personnelle parce qu'on se trouve en décalage avec les membres de sa famille, ses proches, ses amis, mais aussi sur la vie professionnelle, parce qu'on est aussi en décalage avec une partie de ses collègues, et donc on se connaît moins, et on partage moins de choses ensemble, on ne construit pas le sens du travail, l'entraide, la solidarité ensemble de la même façon.
Mais sur la protection du droit du travail en France par rapport aux autres pays européens, est-ce que la protection est plutôt plus forte en France en termes de travail de nuit ?
Je pense qu'on peut plutôt opposer peut-être les pays anglo-saxons aux pays d'Europe du Nord et l'Allemagne. C'est vrai que pour l'instant, les pays anglo-saxons étaient beaucoup plus libéraux. Et nous, on estime aujourd'hui, enfin en tout cas les gouvernants estiment qu'il faut rejoindre ce critère anglo-saxon.
Ce qu'on constate en tout cas, c'est que ce nombre de travailleurs de nuit, comme je le disais en introduction, ne cesse d'augmenter. Et ce n'est pas seulement le cas en France, c'est aussi le cas dans les autres économies développées. Une évolution qui serait liée au changement de nos modes de vie.
Alors on voit une évolution depuis quelques années d'une activité qui était essentiellement en journée et des nuits relativement calmes, peut-être excepté les samedis soirs du fait des sorties en boîte de nuit et donc de peut-être un peu d'excès d'alcool, tout ça, voilà, où on avait pas mal de problèmes de ce côté-là. Maintenant, on a une activité qui se décale un petit peu et qui a tendance à rester forte en journée, mais à rester importante sur les fins d'après-midi, les débuts de soirée. Et avec donc des nuits qui sont en effet plus chargées en travail qu'avant, avec malheureusement un effectif soignant qui est moindre qu'en journée.
Le docteur Guillaume Laroumet, dans un épisode de la série documentaire sur France Culture, ce décalage de l'activité, ces nouveaux modes de vie, Marc Lauriol, c'est peut-être quelque chose qui se constate, qui s'observe d'abord à l'hôpital ?
Alors, l'hôpital, de toute façon, a toujours été un lieu où on a besoin de soins 24 heures sur 24. Je dirais que ce qui change plus que les nouveaux modes de vie, je pense pas que les gens aient spécialement beaucoup plus envie qu'avant d'avoir tout le temps tout disponible en permanence. Mais il y a une intensification des soins à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a une réduction de la durée moyenne de séjour. Et par conséquent, les gens qui sont à l'hôpital sont dans des phases plus aiguës. et du coup, ils ont besoin de plus de soins la journée et la nuit. Quand, pour une même pathologie, avant on restait 12 jours à l'hôpital et aujourd'hui on ne reste que 4-5 jours, forcément les nuits vont être plus chargées parce que les patients qui restent 4-5 jours sont les patients qui sont plus en demande et en besoin. Il y a aussi le phénomène de vieillissement de la population qui peut aussi accentuer cet aspect-là. Pour ma part, je suis un peu sceptique, pas pour le monde de l'hôpital, mais en général, de dire c'est une évolution du mode de vie, les gens ont envie d'avoir tout le temps disponible. Je pense que c'est aussi un cercle vicieux, une question d'œuf et de la poule. C'est-à-dire que finalement, quand on désynchronise le temps de travail des gens, effectivement, on a des personnes qui vont devoir faire leurs courses, qui vont devoir avoir leurs loisirs à des horaires qui sont moins habituels. Mais est-ce que forcément c'est une envie de leur part? Je ne suis pas forcément convaincu.
Alors, difficile de savoir quelle est l'origine de ce phénomène, mais ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, le sommeil semble perçu comme un obstacle à la productivité, au progrès. Le sommeil à mauvaise presse, et d'une façon plus générale, Béatrice Barthes, on dort de moins en moins longtemps.
Oui, tout à fait, on dort de moins en moins longtemps. Et alors, lorsqu'on est travailleur de nuit, on dort encore moins et encore plus mal. Lorsqu'on travaille de nuit, en fait, il faut savoir qu'on est en désaccord avec nos propres rythmicités temporelles circadiennes, ce qui veut dire au cours des 24 heures. Et cela provoque des problèmes de santé. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle.
Alors, je voulais plutôt parler des changements des modes de vie et des modes de production. Le fait qu'aujourd'hui, peut-être, alors vous allez me dire si c'est ce que vous pensez, mais est-ce que vous considérez qu'on vit plus la nuit avec ce temps de sommeil rétréci et avec des temps de vie qui peuvent être plus facilement à des horaires moins classiques?
Comme Marc Lauriol, j'ai pas l'impression qu'on a envie de vivre plus la nuit, même s'il y a des besoins sociaux qui se développent.
Ou peut-être de façon contrainte parce que effectivement on travaille plus tard, très simplement, ou qu'on travaille plus.
En effet, si on augmente le travail de nuit, on augmente de façon conséquente les services nécessaires de transport, de garde d'enfants, d'alimentation pour ces travailleurs de nuit. De fait. Voilà, ceci étant, par rapport à la question des modes de vie, moi je suis ergonome et je travaille plus en micro, en fait. Je m'intéresse vraiment aux conditions de travail des salariés de nuit. Alors, j'investigue également les aspects, par exemple, de conciliation entre horaires de travail et horaires de vie. Mais sur la question des modes de vie, je...
Pour essayer d'avoir un peu une carte de qui est concerné par le travail de nuit et qui ne l'est pas, par exemple en France, on pourrait avoir tendance à penser que c'est une minorité de travailleurs qui est concernée par le travail de nuit. En réalité, si on prend en compte, les quatre horaires dits atypiques, c'est-à-dire le soir, la nuit, le samedi et le dimanche, là on a une majorité de travailleurs concernés, Marc Lauriol.
Oui, alors qui sont-ils? On en a parlé déjà, c'est effectivement les grands secteurs, c'est la santé, la sécurité, également les transports et puis l'industrie, avec le développement des 3-8, des 2-12, avec l'idée aussi que l'intensité capitalistique du monde industriel augmente, il y a des matériels à rentabiliser et donc il faut que l'usine tourne 24 heures sur 24. Alors des fois c'est obligé du fait du type de système de production. Dans la chimie, la sidérurgie, on ne peut pas arrêter les machines, parce que sinon la remise en route est extrêmement complexe. Mais disons, il y a aussi toute une question de rentabilité et qui fait qu'un investissement doit être rentabilisé le plus rapidement possible, donc on tourne 24 heures sur 24.
Et alors justement, le travail de nuit correspond souvent à des emplois précaires. C'est ce qu'on entend dans cette archive INA de 1998 que je voudrais vous faire entendre. C'est un reportage à l'usine Renault de Douai, où une troisième équipe a été créé justement pour travailler la nuit.
Ce qu'il y a de nouveau dans la mise en place de cette équipe à Douai, c'est la possibilité, en fonction de la demande des clients, de passer de deux équipes à trois équipes et de trois équipes à deux équipes. Ceci sans procéder à des licenciements. C'est ce qui explique que la différence de production, on la fasse en utilisant des contrats à durée déterminée. Nous pouvons être amenés à supprimer des emplois pour gagner de l'efficacité et de la productivité, mais nous ne voulons pas faire de suppression d'effectifs pour des raisons de variation de la demande. C'est de la flexibilité.
Face au problème de chômage, il est clair qu'aujourd'hui, permettre à des jeunes de s'insérer professionnellement dans une entreprise, leur donner la possibilité effectivement de se qualifier pour un certain nombre d'entre eux, c'est quand même effectivement un élément positif, mais c'est pas un élément suffisant dans la mesure où on considère qu'à terme, il faut effectivement leur trouver un emploi et un emploi durable et qualifié.
La direction de Renault spécule sur le désarroi et la misère, et notamment qui frappe la jeunesse, en leur faisant miroiter un poste pour quelques mois et en conditionnant la poursuite de leur activité à leur bonne conduite dans les ateliers.
Béatrice Barthes, comme on l'entend ici, les travailleurs de nuit sont souvent une variable d'ajustement.
Oui, tout à fait. Tout à l'heure, nous parlions de la justification du travail de nuit. Alors, en effet, dans certains secteurs, il y a un caractère obligatoire imposé par le service, par les contraintes du service public, dans la police, la santé, vous en avez parlé, monsieur Lauriol. Mais il y a également une modalité qui est choisie pour maximiser la rentabilité des équipements, notamment dans l'industrie. Et alors je parle de choix, bien sûr que c'est un choix sous contrainte dans une économie extrêmement concurrentielle, mais c'est quand même un choix. Et à ce propos, peut-être un exemple, moi j'ai travaillé dans l'aéronautique, où comme il est dit dans le reportage, à chaque fois qu'il y avait une augmentation des commandes, la chaîne d'assemblage fonctionnait la nuit, et lorsqu'il y avait moins de commandes, la chaîne d'assemblage fonctionnait en horaire posté, donc un poste de matin, un poste d'après-midi. Et donc il y avait comme ça des ajustements, donc c'est vraiment un ajustement aux commandes. Mmh. Et dans cette situation, en fait, ils s'étaient posé la question, et on s'était posé la question, j'avais travaillé avec eux, d'autres solutions. Parce que lorsqu'ils mettaient en place le travail de nuit, ils se sont rendus compte quand même qu'il y avait des problèmes de santé. La médecine du travail avait alerté l'entreprise de l'absentéisme, des problèmes de santé. Il y avait également des problèmes de production. Et donc, du coup, l'idée était soit on passe en nuit, soit on construit une seconde chaîne d'assemblage qui fonctionne en journée. Donc, c'est quand même, faut le souligner, c'est pas comme un mode de vie. Il y a vraiment des choix économiques qui sont faits et qui pèsent fortement avec, en effet, l'horaire de nuit, le travail de nuit comme une variable d'ajustement.
Et il y a une conscience, en tout cas, des conséquences sur la santé de ce travail de nuit. Mais sur ce lien entre travail de nuit et précarité, Marc Lauriol, il existe bien sûr, mais ce serait une erreur de penser que le travail de nuit ne concerne que les travailleurs précaires.
Alors, à l'hôpital et dans la police, en tout cas à l'hôpital en région parisienne, il y a peut-être des exceptions plus malheureuses en région. Mais en région parisienne et dans la police et à l'hôpital, c'est plutôt des travailleurs expérimentés qui font les nuits. D'une part parce que il faut une certaine compétence et un certain savoir-faire pour travailler la nuit, parce qu'on est plus laissé à soi-même. On a plus à résoudre des problèmes qui ne se posent pas de la même façon dans la journée. Les malades sont plus angoissés. Ce qui se passe dans la rue la nuit quand on est policier est toujours soit plus inquiétant, soit paraît plus étrange. Et encore une fois, on est seul, donc on doit se débrouiller par soi-même. Donc on fait appel plutôt à des salariés qui sont relativement expérimentés.
Ce qui explique qu'on ait autant de CDD que de CDI en fait parmi ces travailleurs de nuit.
Oui, je pense que la population des travailleurs de nuit est très hétérogène. C'est peut-être dans l'industrie, comme le son que vous avez évoqué tout à l'heure et ce que disait Mme Béatrice Barthes, qu'on va retrouver du recours à du travail précaire justement pour faire face au travail de nuit, aux besoins d'ajustement à une demande exceptionnellement plus importante.
Et alors vous le disiez, les femmes ont été longtemps exclues du travail de nuit, puisqu'il a été interdit pour elles dans l'industrie en 1892. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, Marc Lauriol, les hommes soient encore beaucoup plus nombreux parmi les travailleurs de nuit que les femmes.
Alors, dans l'industrie, déjà, les femmes sont un tiers à peu près, et les hommes deux tiers, donc ils sont plus nombreux que les femmes.
Mais d'une façon générale, les hommes sont plus nombreux parmi les travailleurs de nuit que les femmes.
Alors, dans l'industrie, je sais pas, je vais essayer peut-être de répondre.
Non, mais au-delà de l'industrie, Béatrice Barthes.
Alors oui, ils sont plus nombreux, en effet. Et quand on regarde de près, en fait, c'est pas pareil. On a une répartition genrée dans les métiers. Lorsqu'on regarde, je pense à l'enquête Semeur de surveillance médicale de l'exposition au risque professionnel. Lorsqu'on regarde les personnes qui travaillent de nuit, les hommes, le plus souvent, sont des policiers militaires et des ouvriers qualifiés ou non qualifiés et des chauffeurs, avec beaucoup de manutention, parce qu'il y a aussi la question du cumulent d'autres contraintes liées au travail de nuit. Et les femmes qui travaillent de nuit, elles, sont plutôt employées ou agents de la fonction publique et travaillent dans la santé ou dans le secteur social. Donc, c'est pas les mêmes métiers. Et peut-être, si je peux me permettre, c'est pas les mêmes conditions de travail non plus.
Et comment est-ce qu'on explique cette absence de mixité parmi les travailleurs de nuit, le fait que ce soit des secteurs particulièrement peu mixtes?
Alors, je pense en même temps que si on regarde le travail de jour,
c'est la même chose.
Dans la police et à l'hôpital, c'est la même chose.
Mmh.
Oui, c'est pas spécifique. Le travail de nuit reproduit la division genrée du travail. Il n'y a pas plus d'hommes à l'hôpital la nuit que la journée. Il n'y a pas plus de femmes la journée dans la police que la nuit.
Mais la situation des femmes est tout de même spécifique. Je pense aux 2 millions de mères célibataires en France qui doivent trouver des modes de garde en cas de travail de nuit, Béatrice Barthe.
Tout à fait. Tout à fait. La question des femmes pose justement une question compliquée au niveau de la conciliation entre les horaires de travail et les horaires de vie, parce que lorsqu'on parle de travail de nuit, d'horaires de travail de nuit, en fait ce sont aussi les horaires de vie des personnes. Et on se rend compte quand on regarde les études qui s'intéressent à comment les femmes gèrent ces difficultés, cette conciliation, et si on les compare avec les hommes, là on voit des différences fortes avec des femmes qui, alors là je vais vous surprendre peut-être, je ne sais pas, pour pouvoir garder leurs enfants en journée, vont choisir peut-être, choisir entre guillemets, de travailler la nuit pour être présente le matin au lever des enfants, à midi pour les faire déjeuner, le soir et pour les amener à l'école, et le soir pour les devoirs.
Bien, vous venez de nous divulgâcher un témoignage qu'on allait passer un peu plus tard dans l'émission, mais non, au contraire, mais c'est intéressant effectivement de souligner ce rôle et cette importance des femmes dans le travail de nuit, parce que elles y sont arrivées de façon plus tardive à cause de la législation, comme on l'a dit. Et puis, il y a aussi la question des jeunes. Ce qu'on constate aussi, c'est que les travailleurs de nuit sont plus souvent des jeunes ou des âges intermédiaires, Béatrice Barthe, à cause de la pénibilité principalement ?
Alors, il y a plusieurs raisons, je pense, à cause de la pénibilité, à cause aussi du fait que ce sont souvent des intérimaires qui sont embauchés la nuit, donc, et quand parmi les intérimaires, on a beaucoup de jeunes. Voilà, il y a plusieurs facteurs qui expliquent en effet ce résultat.
Alors, dès qu'on regarde des secteurs particuliers, ça devient plus compliqué. Dans la police, par exemple, c'est pas forcément les plus jeunes qui vont faire les nuits. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, je l'ai déjà évoquée, c'est le rôle nécessaire de l'expérience. Une autre raison aussi, c'est que parfois, les anciens apprécient l'ambiance de la nuit, c'est-à-dire où il y a plus de soutien. C'est vrai qu'en tout cas, dans les commissariats où on allait, il y a plus de soutien la nuit, très nettement, par rapport aux hommes brigades, et aussi plus d'autonomie. Et pour des policiers qui ont une certaine expérience, avoir cette autonomie, c'est une façon de mettre en œuvre cette expérience et de faire encore plus le travail qu'ils ont envie de faire et de la façon dont ils pensent bien de le faire. Il y a du coup aussi un petit piège parfois, c'est-à-dire qu'il y a un risque de désocialisation et effectivement, plus on est âgé, plus les contraintes de la nuit pèsent sur l'organisme. Alors que parfois d'autres compensations peuvent être plus intéressantes pour les gens qui sont plus expérimentés. Et donc on risque de s'enfermer parfois dans la nuit et penser avoir du mal à en sortir quand le corps ne tient plus, parce qu'on se sent inadapté, ou aussi parce que l'employeur pense qu'on est inadapté au travail de jour.
Alors on va voir effectivement quelles conséquences sur la vie sociale, sur la santé, mais aussi sur l'organisation du travail. On en parle dans un instant. Alors, on va en parler dans un instant, mais...
His heart in every line. Marvin sang of the joy and pain. He opened up our minds, and I still can hear him say, oh, talk to me so you can see what's going on. Another hole. I know you're not alone on the night shift.
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Roquigny.
Night Shift des Commodores. Béatrice Barthes et Marc Loriol sont toujours avec nous pour parler des travailleurs de nuit.
18 femmes du secteur câblerie de Citroën-Rennes travailleront désormais en service de nuit. Jusqu'à présent, seuls les hommes étaient autorisés à travailler la nuit. L'accord signé le 2 juin dernier a été dénoncé par FO et la CGT qui le juge indécent. Dans 3 mois, les 18 volontaires pourront faire marche arrière si elles le désirent. Elles retrouveront alors leur poste dans une équipe de jour.
Il faut partir de la réalité sociale. Il y a près de 800 000 femmes qui travaillent de nuit sur 3 millions de travailleurs. Et nous avons constaté dans le travail que nous avons mené d'audition pour préparer ce texte que le travail de nuit était très mal encadré, très mal protégé et qu'il n'y avait pas de spécificité pour les femmes, sauf pour les femmes enceintes. Donc nous allons faire une véritable législation sociale qui va faire progresser le droit au travail pour tous et pour toutes, en sachant que le travail de nuit est nocif pour la santé et il l'est pour tout le monde, aussi bien les hommes que pour les femmes.
Alors voilà, on a entendu qu'effectivement, il avait fallu un certain temps avant que les femmes soient autorisées à travailler la nuit. Et comme vous le disiez, Béatrice Barthes, ça peut aussi résulter d'un choix, et c'est un choix que font effectivement autant des hommes que des femmes.
Je vais voir mes enfants plus longtemps. Parce que le matin, je dors, le petit, il est à l'école. Puis après, le midi, je suis avec lui pour manger. Le soir, je suis avec lui pour les devoirs. Et voilà, quoi.
Moi, j'aime bien la nuit, ouais. La journée, c'est beaucoup plus violente. T'as pas de contact, t'as pas tout ça. Que la nuit, on est tranquille. T'es le patron, la nuit, en fait.
Je travaille de nuit parce que, comme ma femme a un problème de jambes, de handicapé, je reste chez moi le matin. J'aime mieux travailler comme ça j'ai mon temps pour aider, pour faire le ménage, pour faire tout ça. La nuit, j'ai toujours bien aimé rouler. Ça me dérange pas du tout.
Des témoignages extraits du documentaire « Lumière sur la nuit » de Frédéric Sauzet. On entend bien ici que le travail de nuit procure aussi des avantages. Ça entraîne peut-être d'autres formes de sociabilité, Béatrice Barthes.
Oui, tout à fait. Il ne faut pas croire non plus qu'il n'y a que des contraintes et des aspects négatifs liés au travail de nuit. Il y a de nombreuses personnes qui, d'abord, lorsqu'ils rentrent dans un certain emploi, savent qu'ils vont travailler la nuit. Je pense aux infirmières. Et en même temps, il y a également des aspects positifs. Il peut y avoir des compensations financières. Il peut y avoir une organisation facilitée, justement, aussi du temps personnel en journée. Donc, il y a de nombreux travailleurs de nuit qui sont satisfaits de ces horaires un temps. Souvent, au cours de la vie, ensuite, il peut y avoir des modifications liées à la modification de la vie personnelle, liées à l'âge, liées aux premiers troubles de santé, etc.
Parce qu'effectivement, souvent, le travail de nuit va de pair avec des journées morcelées en termes de travail, Marc Loriol, et ce sont, donc, comme on l'a dit, des salariés qui travaillent aussi souvent le samedi ou le dimanche, et là, ça peut nuire à la vie sociale ou familiale. Il y a beaucoup d'études qui le montrent.
Alors, comme l'a dit Béatrice Barthes, il y a des arrangements qui sont d'autant plus possibles qu'il y a un véritable choix. Et c'est vrai que dans un monde où il y a beaucoup de chômage, le choix n'est pas toujours véritable. Et parfois, c'est aussi un choix entre des mauvaises contraintes. J'ai le souvenir d'une infirmière que j'avais interrogée qui faisait les nuits parce qu'elle était mère célibataire, mais qu'elle laissait son enfant, son jeune enfant, dormir seul la nuit, ce qui était une source de stress et d'angoisse très, très importante. Alors, bien entendu, l'enfant dormait, mais il avait peut-être moins de besoins, mais il aurait pu en avoir. Donc, c'était un choix, je dirais, sous contrainte. Elle aurait mieux aimé pouvoir faire d'autres choix dans son travail et dans sa vie.
Et puis, il peut y aussi y avoir un stress qui est produit par le fait de devoir travailler pendant des heures où l'on est fatigué, du coup, qui exige d'être plus vigilant. Il y a une grande question autour de la vigilance pendant ces heures de nuit, Marc Loriol.
Il se pose plein de questions, effectivement, à la fois sur la vigilance, sur le décalage avec son entourage et ses amis, sur l'alimentation aussi. Les gens qui travaillent de nuit se posent beaucoup de questions sur comment ils doivent manger. Est-ce qu'ils doivent faire un vrai repas en milieu de nuit? Est-ce qu'ils doivent grignoter? Les deux solutions sont assez mauvaises pour la santé et provoquent des risques d'obésité dont les gens sont assez conscients en général, avec toutes les conséquences à plus long terme que ça peut avoir. Donc il y a effectivement des contraintes qui sont connues. Et cet arbitrage, il doit rester un arbitrage. Et dès lors que les gens sont piégés ou se voient imposer le travail de nuit, ça devient encore plus contraignant.
Béatrice Barthes.
Je voudrais rajouter qu'on parle de travail de nuit, mais en fait, vous l'avez évoqué, en effet, dans presque 80% des cas, je crois, la personne qui travaille de nuit, elle travaille aussi en horaire alternant. Elle travaille aussi en horaire irrégulier et imprévisible. Et elle travaille aussi en fin de semaine. Donc c'est tout un ensemble. Et ça, c'est important. Et la seconde chose que je voulais rajouter aussi, mais c'est en lien avec la discussion que nous avons eue au départ sur les métiers, c'est qu'en fait, on a des enquêtes qui nous montrent quelles sont les contraintes auxquelles sont soumis les travailleurs de nuit. Et on sait aujourd'hui qu'en fait, ces travailleurs de nuit subissent plus la pression temporelle, une pression temporelle beaucoup plus forte que les travailleurs de jour. Et comme vous le disiez, ils disent aussi que s'ils font une erreur pendant la nuit, la conséquence sera beaucoup plus grave pour la sécurité que ce qu'en disent les travailleurs de jour.
Mais alors, quid des jours de récupération? Est-ce que le temps libre qui est accordé en compensation du travail la nuit n'est pas justement une façon de trouver un certain nombre d'avantages à ce travail de nuit, Béatrice Barthes?
Oui, tout à fait. Le temps libre permet, on l'a vu dans le reportage, peut permettre de gérer ses enfants. Enfin, si on gère ses enfants comme la personne, comme le témoignage qu'on vient d'entendre, ça veut dire aussi qu'on ne dort pas. C'est au détriment du sommeil. En fait, la question des horaires de nuit, en fait, elle traverse de multiples dimensions qu'on a évoquées au cours de cette discussion. Il y a la question des salaires, vous l'avez dit. Lorsqu'on travaille de nuit, on a un salaire augmenté dans beaucoup d'endroits. Il y a la question de la garde des enfants, la question du transport, la question de l'ambiance du travail qui peut être beaucoup plus soutenable, collectif, solidaire la nuit. Donc il y a des contradictions en fait à gérer.
La question que je me posais, c'est vraiment, est-ce que le temps de récupération peut compenser le temps de nuit? Est-ce que ce temps de la nuit se rattrape, Marc Lauriol?
Mais il ne se rattrape pas complètement, parce qu'à chaque fois que l'on passe du travail au hors-travail, avec ces temps de récupération, on subit un décalage horaire. C'est-à-dire qu'on revient, pour ceux qui travaillent en permanence de nuit par exemple, ils sont amenés à revenir au temps de la journée et puis revenir au temps de la nuit quand ils retournent au travail. C'est la raison pour laquelle parfois les gens qui travaillent nuit, je pense à l'hôpital en réanimation, préfèrent les 12 heures pour avoir des temps de récupération plus longs, pour vraiment gérer et digérer, si je peux dire, ce passage de la nuit au jour.
Il n'y a rien de pire que l'alternance, et à ce propos, je vous propose d'écouter le point de vue d'un médecin, le docteur Arnaud Metlen. Il est spécialiste du sommeil à l'Hôtel Dieu à Paris.
Chez les travailleurs de nuit, effectivement, le sommeil est très impacté, parce qu'on sait clairement. La plupart des études ont montré que le travail de nuit entraîne une réduction du temps de sommeil d'au moins 1 ou 2 heures. Mais ce n'est pas seulement la privation ou la diminution du temps total de sommeil chez ces travailleurs qui va expliquer ce risque de cancer. Probablement que le risque de cancer est plutôt expliqué par ce qu'on appelle la désynchronisation. C'est-à-dire que ces travailleurs sont exposés à des perturbations majeures de leur horloge biologique qui va entraîner une perturbation de la sécrétion de la mélatonine. Et on a montré expérimentalement que la mélatonine était une hormone qui a des effets oncostatiques, c'est-à-dire qui réduisent la croissance tumorale. C'est clairement démontré chez l'animal. Donc probablement que le mécanisme de la désynchronisation associé à la perturbation de la structure du sommeil et de la durée du sommeil chez ces travailleurs peut se conjuguer pour entraîner effectivement une majoration de ce risque de cancer.
Ce que l'on comprend, Béatrice Barthes, c'est que le sommeil de jour ne compense pas le sommeil de nuit.
Oui, tout à fait. Comme l'a dit le docteur à l'instant, le sommeil de jour d'abord est plus court que le sommeil de nuit. Et puis lorsqu'on s'intéresse à la qualité du sommeil, et notamment aux phases de sommeil, la qualité est moins bonne.
Pourquoi ?
Le sommeil diurne. Alors ça, c'est lié à notre rythmicité circadienne endogène, nos rythmes physiologiques. Alors je ne suis pas spécialiste de la physiologie. En même temps, j'ai travaillé, j'étais experte dans le rapport ANSES de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement, du travail et de l'alimentation. Je l'ai dit dans le désordre, mais ça veut dire la même chose. Et en fait, nos collègues physiologistes, chronobiologistes, montrent bien que lorsqu'on dort en journée, on est également en contradiction. Le sommeil est en contradiction avec la rythmicité de nos rythmes.
Mais au-delà de l'aspect physiologique, aussi des explications bien plus sûr, simples qui sont simplement la lumière du jour, les obligations familiales auxquelles on a du mal à couper, le niveau de bruit qui est plus important le jour, ou la température plus élevée, tout ça contribue à une mauvaise qualité du sommeil, Marc Lauriol.
Oui, alors Il y a effectivement, quand on dort chez soi la journée, vis-à-vis de son entourage, de sa famille, de ses voisins, on est en décalage. Et donc, c'est des choses qui n'est pas toujours facile à vivre et qui peut amener à réduire un peu le temps de sommeil, la qualité du sommeil.
Et comme le disait Arnaud Maitlaine, ça peut provoquer un certain nombre de maladies. Alors, il parlait du cancer, il y a aussi des risques d'obésité. Vous en aviez parlé, Marc Lauriol, de diabète. Quelles sont les maladies, les études qui montrent un petit peu ces liens entre travail de nuit et maladie, Béatrice Barthes, maladie physique?
Alors, les effets des horaires de nuit, en effet, ils sont peu évoqués dans les médias, donc je voudrais vous remercier de faire cette émission sur le sujet. Quand vous fumez, vous savez aujourd'hui que vous vous exposez à un risque, mais quand vous travaillez la nuit, vous le savez pas.
Et donc là, est-ce qu'il n'y a pas une obligation d'information de la part de l'employeur, qu'elle soit respectée ou non?
Il y a une information qui est faite, au niveau de la médecine peut-être.
Mais je vous laisse poursuivre.
Et donc l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, donc a rendu une expertise collective en 2016 où elle confirme des résultats de la littérature scientifique qui avait été montrée depuis plusieurs années. Elle confirme des effets sur la santé, donc les troubles du sommeil, on en a parlé, la somnolence. C'est un effet avéré, c'est-à-dire que lorsqu'on travaille de nuit, on a des baisses de somnolence et c'est normal.
Avec des risques d'accidents.
Avec des risques d'accidents et c'est normal. Enfin, c'est physiologique, c'est endogène. Elle montre également l'effet sur les performances cognitives, sur les troubles de métabolique, l'obésité, le surpoids.
C'est important effectivement de voir qu'il y a des troubles physiques, mais aussi des troubles psychiques
tout à fait,
qui peuvent être entraînés par le travail de nuit.
Sur la santé psychique. Oui, tout à fait. Alors, lié à ce que disait tout à l'heure le médecin dans le reportage à la disruption circadienne, mais également lié au contenu du travail. Hein, parce que lorsque vous travaillez de nuit, en général, c'est parce que la situation fonctionne en continu. Et donc, lorsque vous partez de votre poste, vous laissez le travail à une autre personne. Il y a une prise de relais. Hein, et pendant ce temps-là, le travail continue. Et donc ça, c'est un facteur de stress. Ce que vous avez fait pendant la nuit, ce que vous avez réglé, est-ce que vous l'avez bien transmis à vos collègues? Est-ce que vous avez bien pensé à faire cette opération-là? Et donc ça, ça joue également sur les risques psychiques.
Et ces liens sont de plus en plus avérés scientifiquement. Il y a une étude qui a été conduite par l'INSERM en 2018 qui montre que le travail de nuit augmente de 26% le risque de cancer du sein, par exemple. Mais les résultats de ces études peuvent être faussés par toute une série de facteurs. C'est assez compliqué de réaliser des études qui font le lien entre travail de nuit et maladies physiques ou psychiques, Béatrice Barthes.
Alors l'ANSES, justement, a confirmé ce risque de cancer en concluant un effet probable du travail de nuit sur le risque de cancer en général. Il faut savoir que le CIRC, le Centre international de la recherche sur le cancer, en 2007, avait déjà classé le travail posté avec nuit comme probablement cancérogène. Donc il y a des études scientifiques fiables qui montrent aujourd'hui qu'en effet il y a un lien entre travail de nuit et cancer.
Et alors pour revenir à la question de la santé psychique, ce qui est peut-être compliqué, Marc Lauriol, c'est que ces troubles sont plus souvent associés par les travailleurs à des problèmes psychologiques qu'à leur rythme de travail?
Alors les deux sont imbriqués, mais c'est vrai, de toute façon que je voulais ajouter, ce qu'on voit quand on voit des policiers ou des infirmières qui travaillent de nuit, c'est aussi par rapport à leurs collègues qui travaillent de jour, et c'est valable dans d'autres métiers également, les enquêtes le montrent, c'est la prise de médicaments pour faciliter l'endormissement et puis ensuite pour rester éveillé et empêcher l'endormissement quand on est en période de travail. Je pense que c'est un problème de santé publique à venir qui sera tout à fait majeur. Les États-Unis, précédé sur le sujet, mais la prise de substances psychoactives en lien avec le travail, et notamment le travail de nuit, mais pas uniquement, avec l'intensification du travail également, qui vient s'ajouter aux difficultés du travail de nuit, ça provoque des risques de personnes qui vont devenir dépendantes de substances psychoactives à long terme.
Mais est-ce que ce n'est pas important de faire la différence, effectivement, entre ce qui est peut-être de l'ordre du psychologique et ce qui est de l'ordre du rapport vraiment au travail et à son rythme au travail?
Oui, donc là, c'est tout le travail des colliers de travail et des syndicats, c'est de faire remonter les difficultés individuelles pour bien montrer dans quelle mesure ces difficultés individuelles ne sont pas liées à telle ou telle personne, mais sont bien liées à des formes d'organisation qui font que dans tel service ou avec telle forme d'organisation, on a bien une surreprésentation d'un certain nombre de difficultés. Mmh. Donc, si on voit que les difficultés se concentrent sur tel type d'activité de travail ou tel type d'organisation, c'est bien que ça ne dépend pas des personnes, mais bien de l'organisation.
Béatrice Barthes.
Et en effet, quand on s'intéresse aux réalités du travail de nuit, lorsqu'on va dans les situations et qu'on essaie de comprendre comment les travailleurs de nuit font leur travail, interprètent leurs tâches, mettent en place l'autonomie relative qu'ils ont, on se rend compte en fait qu'ils ont des stratégies très très particulières. Par exemple, une très forte anticipation. On a montré ça chez les douaniers, chez les infirmiers, dans l'industrie de la presse, enfin dans de nombreux secteurs, avec parce que les salariés connaissent très bien leur rythme physiologique et savent à quel moment ils seront le plus fatigués, et savent également que les services supports sont fermés, alors il y a une anticipation extrêmement forte en début de poste de nuit. Et ce qu'on observe également, et ce que les études en ergonomie montrent, c'est qu'au moment même de la baisse de vigilance, là où on est le plus, où les salariés sont le plus fatigués, à ce moment-là, il y a des façons de travailler particulières. Tout à l'heure, vous en parliez, Monsieur Lauriol, du collectif. Hein, on a montré en effet que le collectif était une ressource. Alors c'est paradoxal aussi, parce qu'on dit le travail de nuit c'est mauvais pour la santé, mais en même temps ça ne veut pas dire qu'il faut vider les équipes de nuit, hein, parce que le collectif peut être une ressource pour à la fois tenir des enjeux de performance, arriver aux objectifs de travail, mais aussi des enjeux de santé.
Ces solidarités sont peut-être particulièrement importantes, voilà, à l'hôpital ou dans
la police.
Elles
sont d'autant plus importantes la nuit, parce que effectivement l'autonomie est plus grande, donc il faut que l'autonomie devienne une ressource et non pas une contrainte. Si cette autonomie est on se met en permanence dans une situation où on ne sait pas quoi faire, et parce que on n'a pas ce soutien du collectif, ben là effectivement ça devient très difficile. Je voulais ajouter aussi que sur l'anticipation, je suis entièrement d'accord, et sur l'anticipation, l'anticipation aussi de l'environnement, c'est-à-dire pour les infirmières, l'anticipation de quand les malades vont avoir des besoins, de comment rassurer les malades en début de nuit, de façon à ce qu'il n'y ait pas des angoisses, que les malades sont plus angoissés la nuit, aussi par l'isolement et par leur maladie. De la même façon, les policiers expérimentés anticipent aussi dans leur quartier où ils interviennent habituellement les situations qui peuvent survenir, les personnes qui peuvent éventuellement poser des problèmes et les façons de répondre, là encore, seul, sans le soutien de la hiérarchie ou des collègues face à ces situations qui, la nuit, sont toujours plus étranges, mais aussi plus inquiétantes, parce que il y a cet effet de où tout le monde dort, où on se sent dans un monde un petit peu vraiment à part.
Béatrice Barthes.
Oui, en effet, agir sur l'organisation du travail, c'est un levier. Hein,
Mais est-ce que ça doit se faire au niveau individuel? C'est ça la question que je voulais vous poser. Ou est-ce que quel est le rôle que peut jouer l'employeur justement pour lutter contre cette nocivité du travail de nuit?
Ah ben travailler à la. Alors, écoutez, coïncidence du calendrier, j'ai coécrit avec un collectif d'ergonomes dans Le Monde une tribune qui sort aujourd'hui sur la nécessité de concevoir un travail soutenable pour un parcours professionnel durable.
Et concrètement, comment est-ce
concrètement,
que ça,
ça veut dire que aller voir les situations de façon locale, hein, au plus près, pour essayer de voir comment les salariés de nuit, les travailleurs de nuit mettent en place des stratégies de préservation de la santé, quelles stratégies mettent en place pour atteindre leurs objectifs, parce qu'en fait ça tient parce que ils mettent en place ces stratégies-là. L'idée, c'est d'identifier ces stratégies et ensuite de les soutenir par des modes organisationnels. Que ce soit par la mise en place de siestes nocturnes, par le renforcement du collectif, par la co-construction avec eux de nouveaux horaires ou de nouvelles conditions de travail.
Il y a des pistes de réflexion comme cela à mener pour limiter cette nocivité du travail de nuit, Marc Lauriol ?
Alors tout à fait, je dirais aussi pour commencer que et pour compléter ce que disait Béatrice Barthes, c'est-à-dire que pour améliorer les conditions de travail de nuit, on peut aussi améliorer les conditions de travail de jour, parce que certaines personnes, des fois, comme je l'ai dit, se réfugient dans la nuit parce que il y a un manque d'autonomie ou un ensemble de contraintes auxquelles elles veulent échapper dans la journée, et aussi qui rendent difficile le retour une fois qu'on est dans le travail de nuit en journée. Par ailleurs, il y a aussi des questions de relations entre les équipes de jour et les équipes de nuit. Les équipes de nuit se sentent souvent souvent assez isolés. Et quand le travail est intensifié, cet isolement est encore plus grand parce que les transmissions qu'évoquait Béatrice Barnes tout à l'heure ne se font pas ou se font moins bien. Chacun étant concentré sur ses difficultés à très court terme, il y a plus de... Et effectivement, les collectifs aussi s'en servent aussi bien le jour que la nuit, mais encore plus la nuit.
Et peut-être la régularité du travail de nuit est une bonne piste, car comme vous le disiez, l'organisme s'adapte à condition que le changement de rythme se fasse sur le temps long. Non, vous n'avez pas l'air d'accord, Béatrice Barthes.
Il y a une grande variabilité interindividuelle, en fait. Ce qui est important, je pense, c'est aux individus aussi de choisir. Parce que la rythmicité circadienne, la dette de sommeil, on n'est pas tous égaux. Le chronotype, il y a un ensemble de variables interindividuelles, en fait, qui jouent sur le fait de supporter plus ou moins bien le travail de nuit, en fixe ou en alternant.
En tout cas, que l'on soit sur le pont, vous voulez réagir, Marc Larrivé?
Je veux dire que je suis entièrement d'accord, mais en même temps, ce qui est compliqué, c'est que d'un point de vue social, l'instabilité des collectifs de travail, c'est une condition de cette entraide et de cette anticipation qui se fait pas seule, mais qui se fait avec les collègues et avec un partage de connaissances et une intelligence collective aussi avec les autres. Donc, il y a effectivement des besoins individuels et puis aussi des besoins collectifs qui parfois sont compliqués à gérer ensemble.
Je voudrais vous faire entendre un dernier son, car en effet, que l'on travaille le jour ou la nuit, le travail vient hanter nos rêves. C'est ce que montre le documentaire réalisé par la cinéaste Sophie Bruno, Rêver sous le capitalisme.
Je travaillais, c'était une fin d'après-midi, et puis la nuit commençait à tomber. Ça devait être en hiver. Je me suis aperçu que quelques collègues s'étaient transformés. Enfin, en tout cas, dans mon rêve, ça, ils ressemblaient presque plus à des morts-vivants qu'à des collègues.
Parfois, je me réveillais aussi la nuit et je comprenais pas d'où vient ce tic-tic. Et ça aussi, le tic-tic, il m'a fallu du temps pour réaliser que c'était les tic-tic du scan, en fait, de la caisse. Et en fait, c'est pas tic. Tite, c'est vraiment le tite, tite, tite. Il faut être super rapide, c'est un minimum de 30 articles par minute, donc voilà.
Je me retrouve dans l'équipe avec laquelle je travaillais, où je reprends ma place, mais où tout d'un coup, à la fin du mois, quand je veux me faire payer, je n'existe plus. J'ai l'impression d'être un fantôme, j'ai l'impression d'être là, de faire mon boulot, mais sans exister.
Quand ce n'est pas le travail qui occupe nos nuits, c'est peut-être l'angoisse du travail, ce blues que l'on ressent si fortement le dimanche soir. Qu'est-ce que ça vous inspire, Béatrice Barthes, ces témoignages? Ce rapport entre le rêve et la présence du travail dans le rêve, et jusqu'à quel point le travail habite dans nos vies, que ce soit de jour comme de nuit.
Oui, tout à fait. Moi, ça me fait penser en fait à ces situations de travail de nuit. Ce sont souvent des situations de travail en mode continu. Et donc, en fait, en effet, lorsqu'on travaille de nuit, le travail continue en journée. Donc, on se rend compte que les salariés, les travailleurs, les travailleuses de la nuit pensent aussi à leur travail en permanence. Déjà que nous, on y pense beaucoup en travaillant que le jour.
Marc L'Oréal.
C'est vrai que quand on cauchemarde de son travail la nuit, c'est en général un mauvais signe qu'effectivement il y a de la souffrance et des problèmes au travail.
Surtout si c'est souvent le jour, d'ailleurs, qu'on cauchemarde du travail de nuit.
Si on cauchemarde le jour, en plus, c'est vrai, on a un double décalage.
Mais on sera en tout cas un sujet qu'on va continuer à explorer toute cette semaine, ce travail de nuit, cette économie de la nuit. On continue à en parler demain et jeudi. Un grand merci à tous les deux.
Merci.
Mais d'abord, c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet avec son journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Le ministre de l'économie inquiet de la situation de Renault. Après l'annonce d'un déficit historique vendredi, le plan de redressement qui doit arriver risque de toucher des usines en France.
Eh bien, en tout cas, l'État actionnaire sera très vigilant, assurait ce matin Bruno Le Maire, alors qu'effectivement les comptes de Renault sont dans le rouge pour la première fois en 10 ans. 141 millions d'euros de pertes en 2019, des résultats plombés par les résultats de Nissan également. notamment, hein, qui verse une contribution. Également la crise liée à l'affaire Ghosn et la situation chinoise. Alors le plan d'économie de 2 milliards d'euros sur 3 ans ne sera finalisé que d'ici mai. Il est en négociation. Mais les déclarations de la directrice par intérim Clotilde Delbos dimanche, disant qu'il n'y avait aucun tabou et que rien n'était exclu, laissaient entendre que l'un des 16 sites de Renault en France pourrait être touché. Ceci d'autant plus que si les comptes de Renault ont souffert de la conjoncture, une partie de ce qu'on appelle la politique de produits se révèle inadéquate et les sites français sont concernés, explique le directeur du GERPISA et maître de conférence à Bordeaux, Bernard Julien.
C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre d'échecs commerciaux qui ont pesé relativement lourd. Donc là, je pense à ce qui est fabriqué à Douai en particulier, donc Espace, Talisman et même Scénic. Mais c'est vrai que le paysage n'est pas extrêmement ragoûtant sur le terrain européen. Les choses vont mieux sur les émergents, mais les émergents, c'est quand même très volatile. Cette année, Brésil et Russie se sont bien comportés, mais est-ce que ça durera? Ce sont autant de questions. Et le problème, c'est qu'il y a un trou conjoncturel qui renvoie effectivement à une déshérence du management et en particulier déshérence du management des produits et des technos. Et cela, ça va peser certainement aussi sur au moins un ou deux exercices encore. Par conséquent, il faut que l'actionnariat soit patient et puis il faut que les deux entités puissent faire le gros dos. Alors la tradition chez Renault, c'est plutôt d'éviter les fermetures de sites, quitte à réduire la voilure sur certains d'entre eux. Donc, comme ça a déjà beaucoup été fait sur la plupart des sites, on voit mal ce qu'on pourrait gratter encore en maintenant les usines debout. Donc effectivement, il y a eu une inquiétude. Alors après, dans la redistribution des cartes entre Renault et Nissan, il a été dit que le leadership sur l'Europe, ce serait très clairement Renault. Ça pourrait aussi vouloir dire que la voilure, on la réduit d'abord en UK, quitte à transférer un certain nombre de productions sur la France pour essayer de sauver les sites concernés.
Des sites français comme Douai ou Flins, dont les emplois seraient préservés, au détriment d'emplois britanniques sacrifiés, il y a pourtant aussi des leviers économiques, Xavier.
Oui, alors cette solution-là, vous l'avez entendu, politique, disons, qui permettrait de préserver plus de 5800 emplois, apparaît possible, simplement à la faveur du Brexit, mais plus probable restent les atouts propres de Renault pour se relancer, l'arrivée à sa tête de Luca De Meo, c'était le directeur à succès de Volkswagen Espagne, embauché exprès pour cela. Et puis l'alliance avec Nissan, vous l'avez entendu également, pour un retour des dividendes et surtout une coopération sur l'électrique, secteur sur lequel les deux entreprises ont pris du retard.
On passe au bref, et là où on est sûr que des emplois seront supprimés, c'est dans le secteur bancaire. C'est même l'hécatombe après la dernière annonce de HSBC.
Oui, là, ce sont 35 000 emplois liquidés sur 3 ans, 15% des effectifs de la banque britannique en grande difficulté, avec une chute de 53% de son bénéfice net, et qui doit céder une partie de ses activités de détail, ce sont les agences de banque physiques. Dernier cas, en tout cas, d'une longue série en cours et à venir d'établissements bancaires. Ils sont au moins 12 recensés par l'AFP, contraints de réorienter leur activité, réduire leurs coûts ou tout simplement se plier aux nouvelles exigences d'un récent acquéreur comme la banque régionale allemande HSH Nordbank. Alors anticipation sur un futur sombre, c'est à suivre.
On faisait allusion aux relations post-Brexit dans le sujet du jour et déjà des crispations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni au sujet des futures relations économiques.
Oui, là c'est le négociateur britannique David Frost qui rejetait hier clairement toute pression, disait-il, qui pousserait Londres à accepter l'alignement dynamique, comprenez l'alignement sur les règles et les normes européennes souhaitées par Bruxelles pour conclure un accord commercial. Le Royaume-Uni revendique de négocier d'égal à égal, dit Frost, un accord comme celui conclu avec la Corée du Sud ou le Canada. Relation commerciale pas évidente, donc relation bancaire non plus. L'Union européenne vient d'ajouter un territoire britannique, les îles Caïmans, à sa liste noire des paradis fiscaux. Aucun lien direct, me direz-vous. Eh bien, l'eurodéputé allemand Markus Feber y voit en tout cas clairement un avertissement lancé au Royaume-Uni.
Merci Xavier et on vous retrouve demain pour un nouveau Journal de l'Écho.
He keeps leaving you for dead. I don't know what you've been waiting for. So you've got your love locked up instead. But something better's waiting at your door. You don't know your worth. All the things I know that you deserve. Say it's not real if it doesn't hurt. Gotta keep your head up.
Your Worst de Cali des Disclosure. Merci beaucoup Béatrice Barthes et Marc Loriol de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci également à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovin et Alain de Raucourt, à la réalisation Émilie Valla, à la technique aujourd'hui Anthony Thomasson. Demain, nous pénétrons dans le monde de la fête aux côtés de Florian Guérin et d'Étienne Valker. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.